J'étais là et j'avais commencé un thème qui était le se fortifier dans ses croyances. Et finalement, j'avais décidé de couper au milieu et je voudrais vous apporter la suite avec quelques points qui sont intéressants. On avait touché, je vais juste bouger mon micro parce qu'il y a le vent de ma voix qui cogne dans le micro. Et on avait vu ensemble que trop souvent, quand ça va mal, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et il serait utile aussi de se poser la question, qu'est-ce que j'ai cru de travers aussi? Très souvent, ce sont nos croyances qui vont influencer notre destinée beaucoup plus que nos actions. Nous devons poser des actions avec sagesse, mais plus souvent, c'est ce qu'on croit qui va nous propulser ou non dans l'avenir ou dans notre destinée. On fait une toute petite revision au début et ensuite on va dans ces quatre éléments qui sont vraiment importants. On avait commencé le premier, mais on ne l'avait pas fait au complet. Voulez-vous, on va prier. C'est toujours la meilleure chose à faire. Père éternel, on veut t'inviter à toucher nos cœurs ce matin, à nous inspirer. Saint-Esprit, tu connais à chacun de nous notre situation. Saint-Esprit, prends les paroles que je vais prononcer, que j'ai préparées. Utilise-les pour chacun, interprète-les pour chacun et touche la vie de chaque personne ici ce matin et ceux qui nous écoutent aussi en ligne par Internet. Nous savons que c'est ton désir de nous toucher, de nous inspirer. Alors, nous t'invitons, Saint-Esprit, viens maintenant. Viens accomplir cette tâche. Viens nous permettre, Seigneur, d'être propulsés, Seigneur Dieu, dans notre destinée. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Donc, se fortifier dans nos croyances, les clés importantes. On avait vu la dernière fois, et c'est important, ce petit message d'encouragement que l'apôtre Paul a donné à Timothée, qui était « Sois prompt à t'abstenir de traditions insensées et de légendes, mais plutôt engage-toi à t'entraîner dans la vérité qui apporte la justice. » Et il racontait, l'apôtre Paul, l'expression que plusieurs ont interprétée, des histoires de bonnes femmes. Dans le sens, c'est des histoires qui ne sont pas nécessairement fondées, qui paraissent bien. Aujourd'hui, on dirait, Paul dirait, fais attention aux fausses nouvelles. Fais attention aux fake news concernant Dieu et concernant la foi. C'est à peu près comme ça que Paul le dirait probablement aujourd'hui. Et si on regarde dans la version parole vivante, encore ce mot, exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Donc, l'apôtre Paul donne cette exhortation-là à Timothée, exerce-toi, entraîne-toi à rester attaché à Dieu, à rester spirituellement en forme et sois prompt à t'abstenir. Donc, il demande ce qu'on doit mettre de côté. Il dit clairement à Timothée, ça là, tu mets ça de côté et c'est dans ces choses-là que tu t'entraînes et que intentionnellement tu travailles. Et c'est intéressant parce qu'ici, regarde, l'apôtre Paul dit, sois prompt à t'abstenir de traditions insensées, de légendes. Vous rappelez-vous de l'histoire d'Adam? Ce que Dieu a dit à Adam et Ève concernant l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc., ces arbres-là, tu peux manger de tout, vous pouvez vous réjouir de tout, tu ne touches pas à cet arbre-là. Et la consigne de Dieu avait été très claire, mais on voit clairement que Adam et Ève ont cru un serpent au lieu de croire Dieu. On peut dire que c'est une légende. Donc, le serpent dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et ça, c'est une histoire tragique et c'est la première histoire de ce que ça veut dire, croire à des traditions insensées, des légendes, des choses qui ne sont pas fondées sur la vérité. Souvent, concernant Dieu, on en a beaucoup. Dès qu'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pour les Québécois de souche, c'est une expression qu'on entend régulièrement au Québec et probablement dans d'autres pays aussi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça sous-entend quoi? Il s'est fâché contre moi, puis il m'a donné une jambette. Il a provoqué une situation dans ma vie parce qu'il veut m'apprendre une leçon, qu'importe. Et ça aussi, ce n'est pas en ligne avec ce que Jésus est venu nous enseigner. Mais c'est bien spirituel. Ça paraît très spirituel. Et pourtant, on peut l'interpréter et dire c'est une légende, c'est une tradition. Une tradition, c'est ce que l'on croit à propos de quelque chose puis qu'on transmet. Et c'est des choses qu'on nous a transmises de nos parents, des gens autour de nous. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Avec la valeur derrière ça que faut faire attention, marche droit, sinon tu vas manger une taloche derrière la tête, c'est-à-dire il va t'arriver quelque chose. Fais tout pour ne pas le mettre en colère. Fais tout pour lui plaire. C'est une légende, parce que Jésus, ce n'est pas ce qu'il nous a enseigné. Ce n'est pas mon but ce matin. On continue. J'ai juste enlevé mes notes pour ne pas oublier. avant d'oublier, vous avez remarqué probablement sur la table, il y a plein de pain. Ça nous arrive de temps en temps qu'il y a plein de pain. On a un frère de l'Église espagnole qui se rassemble ici l'après-midi, qui a une succursale de la boulangerie Première Moisson. Donc, les pains doivent toujours rester frais. Donc, il vide complètement la succursale le samedi soir. Et tout ça, ce sont des pains qui ont été fabriqués pour hier. Donc, ce n'est pas très vieux. Et on nous en fait cadeau, gracieusement. Donc, si... Désolé pour la publicité gratuite que je suis en train de faire, mais c'est pour vous. Et on dit merci. C'est le pasteur Carlos qui est passé ce matin nous laisser ces pains-là. Et la retraite des hommes s'en vient en septembre et les inscriptions vont commencer la semaine prochaine, que Frank, tu me disais. Donc, la semaine prochaine, vérifiez ça pour les inscriptions pour la retraite des hommes. Donc là, je peux maintenant déposer mes papiers sans avoir l'impression que je peux oublier quelque chose. OK. Donc, exerce-toi. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul nous parle aux Romains de la même manière. Et Paul, l'apôtre Paul a mentionné au niveau des Romains, l'Église de Rome, dans Romains chapitre 12, cette pensée intéressante, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je reviens avec ce verset parce qu'il est trop important. Ce que Paul est en train de dire, c'est « Hey, vous devez penser autrement que ce que vous avez appris. Ce qu'on vous enseigne à penser, si vous voulez découvrir pleinement la volonté de Dieu, vous allez devoir penser autrement. Ce qu'on vous enseigne à penser dans votre culture, dans votre famille, à l'école, changez ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour saisir pleinement ce que Dieu a pour vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai souligné, j'ai mis en caractère gras, discerner, afin de discerner. Et trop souvent, on a eu cette idée que discerner voulait simplement dire qu'on doit découvrir la volonté de Dieu. Et j'avais mentionné la dernière fois, pour certains, la vie chrétienne, ça ressemble à une course au trésor. On cherche partout pour découvrir la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Comme si Dieu la cache, puis on essaie de la trouver. Je suis désolé. C'est pas en ligne avec ce que Paul essaie de nous dire ici. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, le mot « discerner » veut dire « mettre à l'épreuve », examiner, tester, éprouver comme un métal, comme l'or. Vous savez, à l'époque, j'ai une pièce ici qui ressemble à de l'or. Un petit 5 gourdes, pour ceux qui connaissent cette monnaie-là. Et à l'époque, on voit dans les films de pirates ou différents films, lorsque les gens payent en pièces d'époque, en or, c'est quoi la première chose que les gens font? Souvent, on le voit, ils se le mettent dans la bouche. Et ils mordent dedans. Pour voir si ça va laisser des traces, parce qu'à l'époque, les pièces étaient faites littéralement d'or pur, 18 à 24 carats. Alors qu'aujourd'hui, les bijoux, bien, on les fait quelquefois en 10 carats, on fait des alliages, c'est plus résistant. Et si ça laissait des marques, on pouvait voir si la différence entre le cuivre et l'or. Et on pouvait discerner si c'est de l'or. On teste, on éprouve, oui, c'est ça. Et l'apôtre Paul, c'est exactement la même chose qu'il est en train de mentionner aux Romains, afin que vous ayez la preuve irréfutable. Vous l'avez testé, vous savez que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Vous savez que ce que Dieu désire pour votre vie, c'est vraiment bon. C'est ce qu'il est en train de dire. Et non de dire, faites tous vos efforts pour essayer de trouver ce que Dieu veut de vous, exige de vous. C'est pas ce que c'est en train de dire. Les désirs que Dieu a pour vos vies, il veut que vous en ayez la certitude. C'est vrai que Dieu m'aime. C'est vrai que Dieu a des plans de bonheur pour moi, des plans de prospérité. Je le sais, je l'ai testé, ça marche. Et c'est ce sens-là que le verset, on voit ici dans Romains 12, verset 2, c'est ce sens-là que le verset a en réalité. Donc, changez votre manière de penser pour découvrir à quel point ces promesses sont vraies. Donc, Paul nous dit, ce qu'on vous a appris, la manière dont on vous a appris à penser, là, changez ça. Vous devez penser différemment si vous êtes capable de croire que ce que Dieu dit, c'est vraiment vrai. Autrement dit, que vous soyez convaincu que Dieu est bon, que ce qu'il déclare est vrai, mais qu'il est vraiment avec vous et qu'il ne retient rien. Parce qu'on a souvent cette pensée-là, qu'est-ce que je dois faire de plus pour que Dieu libère sa bénédiction? On peut dire aussi, comment je peux croire différemment pour croire que Dieu veut déverser sa bénédiction? C'est complètement différent. Regardons maintenant ces fameux quatre moyens qui vont nous aider à fortifier nos croyances ou fortifier notre foi. J'ai utilisé le mot croyance, mais je parle de notre foi en Dieu. Comment fortifier notre foi en Dieu, nos croyances? Et la dernière fois, on avait commencé avec le premier. Merci pour l'eau. que Dieu a créé. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Partout où il y a un manque d'espoir, l'attente confiance joyeuse que du bien s'en vient de la part de Dieu, alors c'est qu'on ne croit pas à la bonne chose. Et ce premier élément pour évaluer, c'est notre niveau d'espoir. C'est un indicateur. C'est ce qui va nous permettre d'évaluer est-ce que je suis en train réellement de croire Dieu. C'est mon niveau d'espoir. Trop souvent, on a la foi juste assez pour être sauvé, mais pas suffisamment pour marcher dans la grâce. C'est-à-dire, maintenant que tu es sauvé, voici ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. On m'a enseigné des choses semblables. Ah, OK, je dois faire ces choses-là. Mais j'aimerais vous rappeler une vérité de l'apôtre Paul. Je l'ai mis dans mes propres mots. Nous grandissons dans le royaume de Dieu de la même manière que nous y sommes entrés. Réfléchissez à cette pensée-là. Qu'est-ce que le pasteur Gaëtan essaie de nous dire? Je vais juste baisser ça un tout petit peu. Nous grandissons dans le royaume de Dieu de la même manière que nous y sommes entrés. Ça veut dire quoi pour vous? Quelqu'un peut parler? Allez-y, parlez fort. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La foi. La foi. Oh, merci, Pat. Quelqu'un d'autre? Pat dit par la foi. On est-tu d'accord avec ça? La grâce. Oui. Vous vous rappelez de Éphésiens 2:8? Vous connaissez le début d'Éphésiens 2:8? C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Malheureusement, on oublie vite ce que l'apôtre Paul, on va voir tout à l'heure ce qu'il a essayé de nous expliquer à travers la lettre aux Galates, mais on oublie cette vérité. C'est une vérité incontournable. C'est la vérité, je crois, la plus importante. Je suis entré par le moyen de la foi et je vais grandir par le moyen de la foi. Cette vérité-là, là, elle est fondamentale pour ta vie chrétienne. Alors, est-ce qu'on croit cette vérité-là? Je grandis dans le royaume de Dieu de la même manière que j'y suis entré. On va regarder comment Paul l'a dit maintenant. Premièrement, on parle de cette vérité-là. Paul, premier verset dans Galates chapitre 3, nous dit « Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? » Ça veut à peu près dire « Qui vous a ensorcelé, littéralement? » Qui a aveuglé votre jugement pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? De quelle vérité il parle? Cette vérité qu'on vient de parler, mais voici comment il explique cette vérité-là. Il continue au verset 2. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Donc, c'est une question. Est-ce que c'est par la loi, les œuvres de la loi, que tu reçois l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Ici, c'est intéressant parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, lorsqu'on est réconcilié avec Dieu. Le Saint-Esprit vient s'installer en nous et vivre en nous. La parole de Dieu nous dit ça. Donc, comment vous l'avez reçu, l'Esprit? Par la loi ou par la foi? Ensuite, il continue. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Wow! Vous savez, l'ancienne alliance a été mise en place en mettant l'accent sur le comportement, la loi. Tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire tel péché, tu sacrifies tel animal, tu le sacrifies de telle manière, etc. Il y a plein de règles qui sont là. Mais dans la nouvelle alliance, elle repose sur la foi puis la croyance dans la vérité, que Jésus a payé le prix que nous, on n'est pas capable de payer. Donc, ça, on appelle ça la grâce, tandis que la loi était orientée beaucoup plus vers leur comportement. Paul dit que nous nous appuyons sur nos propres forces. Quand on s'appuie sur nos propres forces, c'est-à-dire si on essaie de grandir principalement en nous concentrant sur notre conduite puis notre comportement, ben nous nous appuyons sur les œuvres de la loi. Et ça, c'est pas la grâce. Parce qu'il dit, un peu plus loin dans ce fameux chapitre 3, si vous voulez y aller par vos propres forces, ben vous êtes déchu de la grâce. Vous passez à côté de la grâce. La grâce a tracé un sentier merveilleux qui nous conduit directement à la maison du Père et vous décidez de passer par le marais. de passer par les herbes, de passer par les épines. Vous décidez de passer, de sortir de la grâce, puis d'essayer par vos propres moyens. C'est un peu ce que Paul essaie de nous dire. Donc, s'appuyer sur nos propres forces, qu'est-ce que ça produit habituellement? Ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de sentiments négatifs, parce que notre bonheur repose sur ce que nous accomplissons plutôt que ce que nous croyons en Dieu. Et tant qu'on s'appuie sur nos accomplissements, aïe, 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 qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? J'en ai pas assez fait. Si je faisais plus, peut-être que je me sentirais mieux. Si. Pourquoi? Parce qu'on a passé à côté du sentier de la grâce, puis on est rentré dans le marais de la loi, et on essaie par nos propres forces maintenant de plaire à Dieu, d'être à la hauteur, qu'importe le mot qu'on utilise. Et on a oublié cette vérité qu'on avait vue. Nous grandissons dans le royaume de Dieu de la même manière que nous y sommes entrés. Grâce, pure grâce. Recevoir ce pardon-là en Jésus-Christ. Ça va jusqu'à maintenant? Vous me suivez? OK, cool. Donc, si on s'appuie sur nos propres forces, beaucoup d'anxiété, beaucoup de sentiments négatifs, l'impression que je devrais peut-être en faire plus. Ça, c'est un signe. Je ne m'appuie pas sur la grâce. Ma foi a besoin de grandir. Ma foi dans le fait que je suis pleinement accepté dans la présence de Dieu parce que j'ai reçu le pardon de mes péchés en Jésus-Christ, parce que je suis réconcilié avec Dieu. Ma foi a besoin de grandir là-dedans pour que je puisse continuer de grandir dans le royaume de la même manière que j'y suis rentré en acceptant le salut en Jésus-Christ. Et c'est le contraire de ce que Paul a dit tout à l'heure. Le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous débordiez l'espérance. Donc, l'espérance, c'est un indicateur. Mon espoir d'un avenir meilleur, mon espoir que Dieu va intervenir me permet d'évaluer où est ma foi en réalité, si ma foi est placée à la bonne place. Et donc, je vais juste vérifier. Parfait, on continue. Deuxième vérité importante, ou deuxième clé importante pour grandir dans notre foi, c'est de valoriser la joie du Seigneur. Ici, dans Néhémie, chapitre 8, on a une histoire intéressante. Néhémie reconstruit les murailles de Jérusalem. Ensuite, avec Esdras, il enseigne la parole de Dieu au peuple, à tous ceux qui sont revenus. Mais vous savez, ça fait 70 ans que le peuple était déporté. Ça fait 70 ans qu'ils n'avaient pas lu la parole de Dieu. Ça faisait 70 ans ou plus de 70 ans qu'ils n'avaient pas été en contact avec la parole de Dieu, qu'ils n'avaient pas su ce que Dieu s'attendait d'eux. Et alors, donc, ça faisait plus de 70 ans, ils ont construit, supposons que ça c'est l'estrade, ils ont construit une estrade dans un grand champ, pour qu'on tout le monde, on les voit, et ils lisaient la parole de Dieu, et Esdras, ils l'expliquaient ensemble ensuite. Ils lisaient la parole de Dieu, ils l'expliquaient pour que ce soit compréhensible pour les gens qui écoutaient. Du matin au soir, tous ceux qui étaient capables de comprendre, les adultes, les enfants qui étaient en mesure de comprendre, tous ceux étaient là, les grands-parents et tout, tout le monde était là ensemble, du matin au soir, ça les intéressait, ils écoutaient la parole de Dieu, et surtout, une parole qui faisait du sens parce qu'on leur expliquait en même temps. Mais il s'est passé quelque chose. Ils ont été sous le choc. Imagine, j'ai 58 ans, donc je n'ai jamais entendu la parole de Dieu. Je sais que je suis le peuple de Dieu, on m'en a parlé. J'ai entendu parler des miracles dans le passé. J'ai entendu parler de grandes choses, mais je n'ai jamais entendu parler directement de cette parole-là que Dieu m'adressait. Et là, on me l'explique, on me la lit. Je suis complètement sous le choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens étaient sous le choc de réaliser à quel point ils avaient été ignorants puis désobéissant. Et le verset 9, une partie que je n'ai pas mis ici, dit « En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. » Ça me rappelle un soir, avec les jeunes du lycée, là où j'habitais, on a fait une évangélisation au lycée, dehors, dans la cour. Et pendant que le film de Jésus tourne, moi, j'aime bien me promener, prendre le pouls de la foule, prier. Et j'ai ma marche de prière au milieu de la foule. Et je me souviens de m'être approché d'un vieil homme âgé, peut-être dans les 70, c'est pas âgé, c'est jeune, je sais. Mais pour mon âge à l'époque, j'avais 38 ans, c'était âgé pour moi. Mais cet homme-là pleurait. Il écoute le film de Jésus, un film merveilleux, on voit les miracles et tout, et il pleurait. Et il a prononcé quelque chose à son ami à côté de lui, « J'aurais aimé savoir ça avant. J'aurais aimé recevoir ce message-là quand j'étais jeune. » Et il pleurait de tristesse parce que c'était trop beau. Et c'est comme s'il se disait, qu'est-ce que ma vie aurait été si j'avais reçu ce message-là beaucoup plus jeune? Et ici, ces gens-là sont complètement sous le choc de ce qu'ils attendent. Et Néhémie leur dit, et ça, je trouve ça vraiment intéressant, « Non, ne pleurez pas, ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. C'est la première mention dans la Bible et c'est un verset qu'on utilise régulièrement. La joie de l'Éternel est ma force. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on se remet dans ce contexte-là, les gens sont en train de pleurer. Ils sont complètement sous le choc lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ce Dieu bon qui les a choisis comme son peuple. Et Néhémie ajoute, et ce qu'ils ont ajouté en disant « Ne pleurez pas, ne soyez pas attristés », il dit « Allez manger un bon repas, allez boire des liqueurs douces, envoyez des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel la joie de l'Éternel fait votre force. » Wow! Qu'est-ce que Néhémie est en train de dire? Ne vous lamentez pas sur vos manquements face à la parole, à ce que Dieu s'attend de vous, mais réjouissez-vous d'avoir redécouvert Dieu. Réjouissez-vous de ce que vous entendez, de ce que vous entendez vous permettre de revenir à Dieu et d'être en relation à nouveau avec Dieu, d'être en paix avec Dieu. Donc, ne vous lamentez pas sur vos manquements, mais réjouissez-vous, vous avez découvert Dieu. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? On a une leçon à apprendre de ça, de ce verset-là. C'est dans l'Ancien Testament, sous la loi. Lorsque Néhémie dit « Non, ne pleurez pas, la joie de l'Éternel sera votre force. » Nous aussi, on a quelque chose à apprendre là-dedans. Cesse de regarder à tes manquements, à la situation qui est imparfaite. Réjouis-toi de ce que Dieu accomplit. C'est ce que Dieu désire. Et si je suis... C'est vraiment intéressant. Réjouis-toi de ce que Dieu accomplit. La joie de l'Éternel, c'est la joie de l'Éternel qui fait ta force. Réalisez-vous ce verset-là. La joie de l'Éternel. L'Éternel est joyeux. C'est ce que ça veut dire premièrement. L'Éternel est joyeux puisque un des fruits de l'Esprit, c'est quoi? La joie. L'Éternel est joyeux. Et si je suis capable d'être joyeux comme l'Éternel est, je vais être fort. Autrement dit, si je vois les choses comme Dieu les voit, wow, ça va me remplir de force. Et c'est vrai, c'est une vérité qu'on a trop souvent oubliée. On voit notre situation, l'impossibilité de dire « Oh, ça n'a pas d'allure. Aïe, 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 c'est terrible. » Mais on oublie de regarder les choses comme Dieu les voit. Et ici, Néhémie dit « Non, 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 la joie du Seigneur. Dieu est tellement de bonne humeur aujourd'hui de vous voir écouter sa parole et de revenir à lui. Cette joie-là, c'est ça qui fait votre force. De voir les situations comme Dieu les voit. » Si je suis joyeux comme Dieu, si je suis joyeux comme Dieu l'est, je deviens fort, je suis fort. Et il y a une bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin. Dieu est de bonne humeur ce matin. La parole le dit, la joie, c'est le caractère de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. OK, continuons. Valorisez toujours la joie du Seigneur. On a un verset ici qui est vraiment intéressant. Dans Psaume 2, verset 4, ça dit que celui qui siège dans les cieux rit. Donc, si tu ne croyais pas jusque-là, tu avais des doutes de dire, wow, tu es en train d'inventer quelque chose, une fable concernant Dieu, je suis désolé, non, la Bible dit. Ici, dans le Psaume 2, 4, Dieu est dans les cieux, puis il rit. Ha, ha! Oh, celle-là est bonne! Oh là là! Ouh! Et vous savez de quoi il rit? Il rit parce que les hauts de la terre, les chefs, les gens d'autorité se liguent contre lui et contre Jésus son oint. Et nous, lorsqu'on voit des gens se lever contre Dieu et de dire « Oh, ça, c'est des histoires de bonnes femmes, ça, c'est des fables, il faut pas croire ces choses-là. » Lorsqu'on voit dans la sphère publique, à la télévision ou ailleurs, des gens qui se lèvent et on se dit en nous-mêmes qu'ils se liguent contre Dieu, qui disent « Non, ça, c'est des histoires », bien, dites-vous une chose, rappelez-vous une chose plutôt. Dieu rit. Oh, oh! Ouh! Dieu se moque de ce que ses ennemis disent et planifie. OK. Donc, ça nous aide à comprendre, OK, si moi, je suis capable de saisir cette joie-là que Dieu a, de voir les choses comme Dieu les voit, ça va vraiment me fortifier parce que si Dieu, ça va pour lui, ça doit aller pour moi. Je me souviens le dernier jour, lorsque j'étais au Sénégal, on avait on saluait notre départ et c'était en même temps que la fin du congrès des pastorales, si je peux dire. Tout le monde était là, on a pris un repas ensemble le soir. Et mon assistant, celui avec qui j'ai travaillé dans les dernières années, j'ai fait 3 ans avec lui. On a été allé partout. Éric, à un moment donné, se lève et dit, écoute, je souligne quelque chose concernant Gaétan. On est allé à des endroits, là. Moi, je ne serais jamais allé. On a vécu des conditions à certains endroits où j'aurais eu de la difficulté à accepter ça. Il est africain. Il dit, je regardais Gaétan. Ah, tout va bien pour lui. OK, donc ça devrait aller pour moi. Il m'en avait jamais parlé, Éric, mais quand j'ai entendu ça, je dis, ah bon? Donc, si tout va bien pour Dieu, ça devrait aller pour nous. Si Dieu se rit, alors on peut sourire et dire, merci Seigneur que tu es mon Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est toi, c'est à toi la victoire. Et on peut réellement voir la situation. C'est ça la joie de l'Éternel. Elle fait notre force. Et ici, donc celui qui siège dans les cieux se rit. C'est vraiment intéressant. Je vous avais déjà raconté une histoire dans un village où je suis allé en Côte d'Ivoire alors qu'il y avait encore la guerre. Et dans ce village-là, c'était en mars 2003, je m'en souviens encore. Et il y a un homme, alors qu'on était en train de faire la soirée d'évangélisation et que les rebelles étaient, je dirais pas les rebelles, mais c'était des mercenaires qui avaient pris la liberté de piller des villages et vraiment de tuer des vies, c'était grave. Et il y a beaucoup de réfugiés qui rentraient au village pendant qu'on évangélisait. C'était vraiment une situation dramatique. Et il y a un homme qui, trouvant ça difficile, avait pris un coup pour un peu s'étourdir et qui était fâché après nous et qui disait « Ah! Vous venez danser! Vous venez chanter! Vous devriez avoir honte! » Alors que le pays est en guerre. Lui voyait la perspective, vous voyez la situation à partir de sa perspective. C'était celle-là. Lorsque le pays est en guerre, on ne devrait pas chanter, on ne devrait pas danser, dans le sens qu'on ne devrait pas se réjouir. Moi, je me souviens, c'était quoi ce qui se passait ici? C'était « Seigneur, qu'est-ce que tu vas accomplir ici, dans ce village, ce week-end, alors que tu nous as amenés ici? » Et c'était de déclarer que ce village-là, les rebelles ne vont jamais y entrer. Lorsqu'on a saisi dans notre cœur que c'était ce que Dieu veut qu'on déclare, on l'a déclaré, on a prié en ce sens. Et c'est exactement là que ça a complètement été renversé, cette situation grave où dans les villages de l'Ouest, beaucoup de villages ont été détruits, pillés. C'est là que ça s'est arrêté. Oui, l'armée ivoirienne a eu la gloire, mais moi qui étais là, j'ai une idée de ce qui s'est passé. Et le Dieu dans les cieux, lui, souriait de toute cette situation et il disait, non, moi, je vais garder ce village-là et je vais le protéger. Donc, le rire est une arme puissante qui va affaiblir les mensonges auxquels on a cru en réalité. Si on est capable d'expérimenter la joie de célébrer les progrès au lieu de l'imperfection, notre foi va grandir en réalité. Puis c'est ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous ou soit en vous et que votre joie soit complète. » Jésus a déclaré ça dans Jean 15. « Je vous ai dit ça afin que ma joie, vous l'ayez et que vous l'ayez en abondance, qu'elle soit complète, qu'elle soit parfaite dans la version Louis II, que votre foi soit parfaite. » Encore une fois, c'est intéressant. Jésus est en train de dire, « Si vous avez ma joie, si vous voyez la situation comme moi je la vois, eh bien, vous allez être remplis de joie. Voir les choses comme Dieu les voit va nous remplir de joie. » Donc, Jésus est en train de dire dans une autre version, « Mon but en vous disant ces choses, c'est que la joie que j'éprouve remplisse vos cœurs de joie débordante. » C'est comme ça que c'est dit dans cette version-là. OK, intéressant. Il y a un verset intéressant aussi dans Romains, juste pour aider à comprendre cette idée-là. L'apôtre Paul dit dans Romains 14, verset 17, « En effet, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu n'est pas nos accomplissements, le manger et le boire, mais le royaume de Dieu est ce que nous expérimentons. Le royaume de Dieu va nous permettre d'expérimenter que nous sommes considérés justes devant Dieu. La justice, la paix va remplir nos cœurs et la joie va déborder. La joie va nous remplir par le Saint-Esprit lorsqu'on marche et qu'on permet au Saint-Esprit de nous parler, de nous faire prendre conscience de cette réalité. Donc, on peut dire, voir les choses comme Dieu les voit nous remplit aussi de joie. Donc, valoriser la joie du Seigneur va fortifier notre foi. Voir les choses comme Dieu les voit va fortifier notre foi. Il n'a pas perdu le contrôle. Il n'a pas perdu les pédales. Le 21e siècle n'est pas quelque chose de compliqué pour lui. Et toutes les mentalités et tout ce qui se passe, il n'y a absolument rien qui ne lui échappe. Mais j'aimerais dire que Dieu n'est pas nécessairement en contrôle, il contrôle tout, mais Dieu est en charge et nous laisse le représenter sur terre. Donc, quelquefois, nous mettons la faute sur Dieu, mais on devrait prendre la faute. Parce que Dieu nous demande, nous dit, écoute, vois les choses comme moi je les vois, tu vas voir, il y aura toute une force dans ta foi. Ta foi va être fortifiée, ta joie va déborder si tu vois les choses comme moi je les vois. Troisième clé, on va terminer tôt aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller fêter cette joie que vous avez dans le Seigneur, partager un peu comme Néhémie disait, partager les uns les autres, invitez-vous, réjouissez-vous, la joie de l'Éternel est votre force. Un autre élément vraiment important, une troisième clé, combattez avec les promesses que Dieu réalise. Quels sont les parents, est-ce qu'il y a des parents, vous avez déjà acheté un animal à votre enfant? Un poisson, un chien, un chat, un oiseau. Levez la main, gardez-la levée. OK, il y a certains que vous allez comprendre. Lorsqu'on achète un animal de compagnie, qu'importe ce qu'il en est à nos enfants, on se dit, OK, j'ai besoin d'entraîner mon enfant à en prendre soin. Sinon, qui s'en occupe? C'est les parents. Oui, j'ai un chat chez nous qui avait été donné à mon fils. Il est encore chez nous, le chat, après des années. C'est... Mon fils n'est plus à la maison, mais le chat est encore chez nous. On s'en occupe. Et habituellement, ce qu'on va faire, supposons que l'animal de compagnie s'appelle Toto. As-tu nourri Toto aujourd'hui? Et on va rappeler à notre enfant, on va lui rappeler. On va l'entraîner à s'assurer qu'il n'oublie pas à nourrir. Et ça me fait penser à ce verset-là ici, où c'est un rappel de la part de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Jésus ici est en train de nous dire, as-tu nourri ton âme aujourd'hui? As-tu pensé à nourrir ton âme aujourd'hui? Parce que c'est à peu près ce que ça veut dire. Nous, on dit, as-tu nourri Toto aujourd'hui? Et Jésus nous dit, as-tu pris soin de ton âme aujourd'hui? Parce que combattre avec les promesses que Dieu réalise, c'est vraiment important. Donc, dans ce passage, l'homme ne vivra pas que du pain. Merci Seigneur pour le pain, il y en a dans l'entrée, sur les tables. Mais aussi de toute parole, et on est en train, j'essaie du mieux que je peux de prononcer les paroles que Dieu désire que vous entendiez ce matin. Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et ici, de toute parole, encore une fois, ce mot parole est le mot grec « rhéma », qui est différent de « logos », qui est la parole écrite, mais du « rhéma », de tout ce que Dieu dit, de tout ce que Dieu déclare sur ta vie. Donc, la qualité de ta foi va dépendre de ce que tu fais, de ce que Dieu t'a dit. Donc, as-tu écouté la voix de Dieu aujourd'hui? Ou comme Jésus dit, as-tu nourri ton âme aujourd'hui? Puisque on va être nourri de ce que Dieu veut nous dire. Est-ce qu'on est allé écouter Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on a écouté la voix de Dieu? Est-ce que tu as permis à Dieu de t'encourager aujourd'hui? Tu devrais te poser la question à chaque jour. La plupart du temps, quand on est découragé, au début de mon ministère, je cherchais des pistes pour m'aider à mieux faire le ministère, à mieux encourager les gens. Et tout à coup, j'ai découvert une question importante lorsque quelqu'un venait me voir et était découragé. Et j'ai appris, pour raccourcir le temps d'entrevue, à aller directement à cette question-là. C'est quand la dernière fois que tu as lu la Bible, la parole de Dieu? Et c'est quand la dernière fois que tu as eu un tête-à-tête avec Dieu? Et immanquablement, c'était « Oh, ça fait longtemps. » OK, peut-être on va commencer là. As-tu nourri ton âme aujourd'hui? Et j'ai réalisé que moi-même qui suis pasteur depuis 35 ans, lorsque je suis découragé, j'ai besoin de me poser la question. Est-ce que j'ai écouté la situation au lieu d'écouter Dieu aujourd'hui? Quelle est la qualité de ma relation avec Dieu face à cette situation qui me décourage? Est-ce que j'ai écouté la situation ou bien j'ai écouté Dieu? Et habituellement, j'ai tout de suite la réponse. OK, je me repositionne, je me recentre sur l'amour de Dieu. Seigneur, je te demande pardon et je vais aller à nouveau saisir dans ta présence cette joie, cette paix, cette force. Je vais à nouveau voir la situation comme toi, tu la vois. Donc, Paul nous écrit dans Éphésiens 6, justement concernant combattre avec les promesses que Dieu accomplit. Paul nous dit quelque chose de vraiment important. Les armes du croyant. On connaît les armes du croyant, mais on retient trop souvent l'illustration de l'arme, l'image de l'arme et non l'arme elle-même. Un exemple, l'épée, le bouclier, les chaussures. Ce n'est pas l'illustration qui est importante, c'est ce qui est illustré. Le zèle de l'Évangile, la foi, etc. Et ici, Paul dit, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La seule arme offensive ici qui est utilisée, c'est l'épée. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, c'est la seule arme offensive. Et encore une fois, c'est vraiment intéressant, la parole de Dieu, c'est le mot rhéma et non le mot logos. Ce n'est pas la Bible. On a toujours pensé que c'est la Bible. Hey, pasteur Gaétan, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Oui, je sais que la Bible est la parole de Dieu. Lorsque je lis la Bible, je le prends directement comme la parole de Dieu. Mais ici, ça parle du mot rhéma, de ce que Dieu déclare sur cette situation-là, de ce que Dieu te dit. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, l'épée, l'arme offensive, c'est ce que Dieu me dit, jour après jour. Donc, est-ce que j'ai écouté la voix de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis allé passer un moment dans sa présence pour nourrir mon âme, pour prendre soin de mon âme? Vous savez, Paul, lorsqu'on parle de combattre avec les promesses que Dieu réalise, maintenant, je vais être plus précis. Paul donne une exhortation à Timothée. Paul a installé Timothée à Éphèse et il l'encourage dans ce sens-là. Je vais lire le passage, ensuite je vous l'explique. Il dit, « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat. » Paul est en train de dire à Timothée, « Timothée, souviens-toi de ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Appuie-toi là-dessus pour combattre le bon combat. Ne néglige pas ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Ne le mets pas en oubli. Mais appuie-toi sur ça pour combattre. » Et dans la Bible, en français courant, ça dit « que ces paroles soient ta force ». C'est comme ça que c'est traduit dans la parole vivante, dans la Bible en français courant plutôt. Et dans la parole vivante, que leur souvenir t'encourage. Le souvenir de ce que Dieu a dit sur ta vie, que ça puisse être un encouragement pour toi, pour aller de l'avant et combattre le bon combat. C'est ça, combattre avec les promesses que Dieu réalise. Je vous donne deux exemples maintenant. Comment combattre avec les promesses que Dieu réalise? On regarde deux exemples, un négatif, un positif. Le négatif, c'est, on ne va pas s'attarder dessus, mais il est vraiment important. Réalisez-vous que Dieu a prophétisé sur 2 millions de personnes la bénédiction qu'il avait pour eux. Dieu a prophétisé à 2 millions de personnes le pays promis, mais avez-vous réalisé qu'il y en a juste deux qui y sont entrés? Il y a juste deux personnes sont entrées dans cette promesse qui avait été prophétisée sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Hébreux, ça nous dit, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est pour ça que je parle de fortifier ta foi. C'est pour ça qu'on parle comment se fortifier dans nos croyances. Dieu a prophétisé sur 2 millions de personnes. Il y en a deux qui l'ont reçu. Mais je pensais que la parole de Dieu avait la puissance pour s'accomplir en elle-même. Oui. Mais ces promesses, c'est un petit peu différent. On va le voir tantôt. On va regarder. Donc, ça, c'était l'exemple négatif. On va regarder maintenant l'exemple positif. Donc, voici la différence qui se passe lorsqu'on s'appuie sur ce que Dieu a fait. Le roi David, ou le petit David, parce qu'il n'était pas roi. Il était loin d'être roi. Il n'était pas rendu là. Le petit jeune David qui, un jour, son père lui dit, « David, j'ai préparé des provisions. Va livrer ça à tes frères qui sont au combat. » À tes deux grands frères. David s'en va avec tout ce qui a été préparé de la part de son père pour aider à nourrir l'armée. Et puis lorsqu'il arrive, le jeune arrive sur le terrain, il voit qu'il y a vraiment une commotion, il y a des choses qui se passent, puis il est vraiment curieux. Sa première chose, il dépose tous les bagages, puis il s'en va sur le front voir qu'est-ce qui se passe. Hey, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Et les gens, c'est ce que le passage dit, tout ça c'est dans 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 23, Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, c'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Donc, David écoute les gens parce qu'il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Et il y a Goliath qui s'est avancé. Et tout le monde, il y en a qui partent se cacher. Il y en a qui, bon, OK, j'ai fini. Oh, c'est mon temps de pause. Et je m'en vais, je reviendrai. Oh, j'ai oublié quelque chose. Et il y en a qui fuyaient, c'est ce que la Bible dit. Mais David, vous savez ce qu'il a dit? Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ouh! Et en parlant un peu plus avec les soldats, mais qu'est-ce que le roi va donner pour celui qui va être capable de combattre Goliath? Et il lui explique tout ça. Et David dit quoi? Ben moi, j'irai me battre contre lui. J'imagine les soldats qui ricanent un peu entre eux. Viens, mon jeune, viens, on va aller te présenter au roi. Et il l'amène au roi Saül. Il l'amène devant le roi Saül. Et voici la réponse de Saül. Tu peux pas aller te battre contre ce Philistin. T'es qu'un enfant. Alors que lui, c'est un homme de guerre entraîné depuis sa jeunesse. Wow, Tikoun, oublie ça. Expression québécoise qui va dire le jeune. Tu peux pas aller le combattre. Ça, c'est la réponse de Saül. Alors, voici la réponse de David. Je l'ai remis dans le contexte. David dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi de ce Philistin. David s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait dans sa vie, c'est-à-dire, je sais que Dieu est fidèle et je m'appuie sur la force de Dieu et je vais combattre en son nom. C'est ce qu'il a fait. Imaginez, vous entendez du bruit chez vous, que vous soyez en appartement ou dans la maison, vous descendez, vous allez dans la cour arrière et il y a un ours qui se lève devant vous, un grizzly supposons, et wouh, il vous dépasse déjà d'un mètre cinquante. Avez-vous remarqué l'expression de David ici, de la patte de l'ours? J'ai entendu justement d'un spécialiste, une chose à vraiment éviter avec un grizzly, c'est qu'il te passe un coup comme ça, parce qu'il va t'ouvrir en même temps. Il va te couper en rondelles. Les griffes sont tellement... Elles déchirent les arbres, littéralement. Et c'est la raison pour laquelle David dit, il m'a délivré de la patte de l'ours aussi. Imagine que tu arrives devant un ours dans la cour chez vous en arrière. À quoi tu vas penser? Ta vie va dérouler devant toi, dans ton esprit. Wow! Seigneur, au secours! Tu vois la mort devant toi. C'est une situation vraiment, quelque chose de vraiment sérieux. Il y en a qui vont dire, ah, Jésus! Devant une situation aussi dramatique, on ne sait pas comment on réagit. On va réagir de différentes manières, mais à quelque part, il y a un choc qui se produit. David dit, écoute, l'Éternel m'a délivré de ces situations-là. Alors, il va me délivrer. Et lorsque David arrive devant Goliath, c'est vraiment intéressant parce que voici ce que David dit. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Autrement dit, le petit gars, là, il est en train de dire au grand gars, toi, le petit coune, là, tu sais pas qui t'a insulté. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Je marche devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu des armées d'Israël. Et ce Dieu de l'univers là, ou le maître de l'univers, ben en passant, c'est notre Dieu à l'armée qui est devant toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il continue. Donc aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre puis je vais te couper la tête. Imaginez le petit jeune adolescent qui est en train de déclarer ça à un gars qui fait 2,50 m ou plus, 9-10 pieds de haut. Goliath avait un problème, une maladie quelconque, probablement, qui avait fait qu'il était immense, qu'il était vraiment géant. Et c'est pour ça qu'on l'avait entraîné à la guerre. Il dit, aujourd'hui, là, Dieu te lève entre mes mains, je te coupe la tête. Et effectivement, Goliath a ri. Parce qu'il dit, oh là là, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes devant moi avec un bâton? Mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et pourquoi? La clé, elle est vraiment au verset 46-47. Ce n'est pas à l'écran, écoutez-moi bien. Voici ce que David a déclaré pour compléter ce message à Goliath, premièrement, mais aussi à l'armée qui était derrière lui. Et continue en disant, « Afin que toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et il continue, « Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par, faut que je retourne mon texte, à mon texte, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel. Ouh! Donc, c'est ce que ça veut dire lorsque David s'appuie en combattant sur les promesses que Dieu a accomplies dans sa vie. David dit, l'Éternel a fait ça, ça, ça dans ma vie et il va continuer de le faire. Je m'appuie sur lui. Maintenant, donc, on regarde à ses promesses. Mais le fait de regarder à ses promesses ne veut pas dire, ce n'est pas une excuse pour manquer de sagesse. Ce n'est pas une excuse de manquer de bon sens. Ce n'est pas une excuse pour ne pas écouter les gens autour de nous, de dire « Non, moi, je suis à mon affaire parce que l'Éternel est avec moi. » Ce n'est pas une excuse pour agir de cette manière-là non plus. Dans 2 Corinthiens, au premier chapitre, au verset 20, vous connaissez ce verset-là, on l'a très raccourci. « Ses promesses sont oui et amen. » Vous avez déjà entendu ça? « Ses promesses sont oui et amen. » Mais vous savez quoi? On a juste raccourci puis on a enlevé plein de mots pour créer cette expression-là. « Ses promesses sont oui et amen. » En réalité, ça commence dans 2 Corinthiens 1, verset 19. « En lui, il n'y a que le oui par rapport à ses promesses. » Dieu veut accomplir ses promesses. Mais il continue au verset 20, « Mais c'est aussi par lui que nous disons « Amen à Dieu » par le Saint-Esprit. » Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, « Oui, ses promesses sont oui. » Mais nous, on a besoin de répondre par la foi, de dire, « Seigneur, qu'est-ce que veut dire Amen? » Oui, je le veux, mon cœur le veut, je suis d'accord avec cet énoncé-là. Amen veut dire que je suis d'accord avec ce qui vient d'être déclaré. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, « Dieu dit, ces promesses-là, en lui sont le oui. » C'est ce qu'il dit un peu plus loin au début du verset 20. Au verset 19, il dit dans la version second 21, « En lui, il n'y a que le oui. » C'est ce qui est dit. Et c'est pour ça, lorsqu'on sait que Dieu le désire, nous, on ajoute à ça de dire oui, amen. C'est-à-dire, j'ajoute foi, je crois que Dieu va le faire. Je m'appuie sur lui. Donc, combattre avec les promesses que Dieu réalise, avec la parole que Dieu nous a prononcée, de s'appuyer sur ces choses, de dire, Seigneur, pourtant, tu as dit ceci, tu as dit cela. C'est par lui que nous disons « Amen à Dieu ». Alléluia. Qu'on puisse ajouter foi à ce que Dieu a déclaré à ses promesses. Juste une petite histoire. Un de nos prophètes modernes, justement, racontait « Il est prophète, mais lorsqu'il était jeune croyant, il venait d'arriver à la foi et il vivait des situations extrêmement difficiles, angoissées. Où ça ouvrait la porte à l'ennemi pour à vraiment faire beaucoup de... Il était harassé. Il a fait une dépression nerveuse. Et lorsqu'il s'en est remis, il a pris l'habitude d'aller dans la salle de bain parce que c'était la seule porte qui se barrait dans la maison pour prendre un bon bain et lire la parole, prier, etc. Et un jour, alors qu'il était dans le bain, Jésus lui apparaît dans sa salle de bain. Il dit non, pas une apparition fortuite, rapide. On a jasé 30 minutes. Et lorsque Jésus était prêt à repartir, et il a déclaré des choses sur sa vie clairement qui sont aujourd'hui en train de s'accomplir. Ça date d'il y a 30 ans. Mais avant de sortir, pas par la porte parce que Jésus n'a pas besoin de porte, il s'est tourné vers lui et il lui a dit, « L'histoire va nous dire si tu crois mes paroles. » Et tout à coup, il a réalisé, parce qu'on croit que les promesses de Dieu, ben oui, elles vont s'accomplir. On a, nous, besoin d'ajouter notre foi à ces paroles-là, à ces promesses-là. Aux promesses de la parole de Dieu. Il a tout à coup réalisé que ce que trop souvent on pense que parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a prophétisé, ça va arriver si on collabore avec lui, si on ajoute le Amen, si on ajoute notre foi, si on exerce notre foi de dire oui, je le crois, je décide de le croire et de marcher dans ces vérités-là. Et cet homme-là a compris lorsque Jésus s'est retourné vers lui pour lui dire, l'histoire va nous dire si tu as cru ce que je viens de te dire. Autrement dit, ce que je viens de te déclarer, Jésus lui-même, tu y ajoutes 10 fois. Parce que du côté de Dieu, comme on disait tantôt, lui, c'est le oui. Lorsque Dieu déclare quelque chose, il veut l'accomplir et il nous invite à exercer notre foi. Alors, soyons fortifiés dans notre foi. On termine avec la quatrième vérité. Ça va jusqu'à maintenant? Cool. Super. Dernière vérité. recevoir une injection régulière d'espoir. C'est pas une incitation à la drogue, là. Je parle d'une injection d'espoir. Et je ne parle d'aucune substance illicite, c'est pas ça. Est-ce que tu nourris ta foi? Et de quoi est-ce que tu nourris ta foi? Exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous avez faim puis que c'est l'heure du repas en même temps? On mange. Et on aime ce qu'on mange habituellement, on déguste, on mange. Mais imaginez-vous quelqu'un qui dit, « Je comprends pas ce qui se passe. Je me sens faible. J'ai vraiment faim. Pourtant, j'ai mangé. » Lundi de la semaine passée. Oui. Si tu arrives chez ton médecin, tu dis, « Médecin, docteur, je comprends pas. Je suis faible. J'ai terriblement faim. J'ai perdu 10 kilos. Qu'est-ce qui se passe? » Premièrement, le médecin va dire, « Comment tu manges? C'est quand la dernière fois que tu as mangé? » OK? Et de la même manière, on ne fait pas subir une telle atrocité à notre corps. À moins de jeûner. Et là, je vous dis, si vous voulez bien jeûner, préparez votre corps pour le jeûne. Et c'est merveilleux de jeûner et de passer du temps en présence de Dieu. Je ne parle pas du jeûne. Mais on prend soin de notre corps. Et ici, ça nous dit, l'apôtre Paul dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Portez vos pensées sur ces choses-là. Et il continue plus loin en disant, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que tu nourris ta foi? Et de quoi est-ce que tu nourris ta foi? Et je reviens à la petite exemple que j'ai utilisé tout à l'heure lorsque j'ai prié à la fin de la louange. C'est ce qu'on a en commun entre les croyants puis les ventes de garage. Une vente de garage nous rappelle qu'on ne peut pas accumuler indéfiniment, il n'y a plus de place. Il faut libérer, donner et vendre si possible. Et trop souvent, c'est ce qu'on fait. La vente de garage sert à libérer de l'espace et à se libérer de plein de choses qu'on n'a plus besoin. Et lorsque moi, j'ai prié en 2012, « Seigneur, apprends-moi à entendre ta voix, apprends-moi à être ton disciple », la première chose que le Saint-Esprit m'a parlé clairement lorsqu'il m'a parlé, c'est « Gaëtan, prends un moment pour observer ta vie, puis enlève ce qui est inutile. » Ça, c'était la première chose qu'il m'a demandé. La deuxième, c'est qu'à partir de maintenant, j'aimerais que tu places dans ta vie ce qui va bâtir ta foi. C'était comme, wow, j'avais jamais entendu Dieu me parler comme ça. Qu'est-ce qui bâtit ma foi? Et j'ai dû chercher, j'ai dû prendre conscience. Qu'est-ce qui va fortifier ma foi? Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer, d'aller plus loin? Et à quelque part, on a besoin de nourrir notre foi. On a besoin d'en prendre soin. On a besoin d'être constant. Donc, comme les ventes de garage nous permettent de nous débarrasser de ce qui est inutile, le Seigneur souvent nous invite à la même chose. On ne peut pas ajouter sans quelquefois faire du ménage, faire de la place. Et comme je disais tout à l'heure, on a besoin de faire de la place pour Dieu dans nos vies. Et non, de simplement ajouter. Quelquefois, on a besoin de se libérer de l'espace. Comme sur un disque dur qui est trop plein, on doit libérer de l'espace parce que l'ordinateur va ralentir et il ne fonctionnera plus du tout. On a besoin de faire de la place si on veut grandir. Et récemment, on a eu un repas en famille. Ça fait pas longtemps, ça devait être la semaine passée. Et je me souviens d'une anecdote que j'ai ramenée à l'avant-scène à propos d'un certain Calao en Côte d'Ivoire, que j'ai appelé mon Calao terroriste, qui avait décidé de déchirer toutes les moustiquaires des fenêtres de la maison pour faire son nid. Je ne vous compte pas le reste, mais je n'étais pas content, vraiment pas. Et un de mes enfants dit, « Papa, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Ferais-tu la même chose? Serais-tu aussi fâché? Ferais-tu la même chose aujourd'hui? » J'ai dit, « Non, absolument pas. » Et j'ai entendu un de mes autres enfants venir à ma rescousse, « Non, papa a changé. » Oh! T'as passé comme inaperçu dans la conversation, mais moi, je l'ai reçu. Oh, merci Seigneur. Il y a des gens qui remarquent que je grandis en toi. À quelque part, que ma foi a grandi et que ma découverte de Dieu m'a permis, moi, d'être différent dans mes valeurs, ainsi de suite. Et à quelque part, on a besoin de recevoir une dose régulière d'espoir. On a besoin de nourrir notre foi comme on nourrit notre corps. On a besoin de nourrir notre foi. Et comment savoir si les choses dont je me nourris sont bonnes pour ma foi? Bien, tout ce que tu crois, si c'est juste pour ajouter des accomplissements à la grâce pour obtenir le salut, la guérison ou la faveur, c'est douteux. Tout ce qui diminue Dieu dans sa puissance, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grandeur, c'est vraiment à remettre en cause. Ou tout ce que j'essaie d'expliquer, pour expliquer pour toi, Dieu ne peut pas agir dans cette situation-là. Honnêtement, c'est à remettre en cause. Et je veux terminer quand même rapidement ce matin en terminant. On a plusieurs moyens de nourrir notre âme ou de nous nourrir de croyances qui sont bonnes, qui sont positives, qui sont remplies d'espoir. Il y a des podcasts, il y a des blogs, il y a des sites Internet, il y a des livres. On transmet la prédication en ligne à tous les dimanches matin. Elle est disponible sur notre page Facebook. Elle est disponible sur la page de adpe.org, sur la page Internet de l'Église, le site web. C'est disponible, des prédications. On a la facilité aujourd'hui d'entendre ce qui va bâtir notre foi, ce qui va nous inspirer. Mais en terminant, saviez-vous que ce n'est pas ma responsabilité de vous nourrir? Je vois, Pat est là. Pat, me permets-tu d'utiliser un exemple qui t'implique un peu? Patrice, tu as été entraîneur. Je ne sais pas si tu l'es présentement. Tu as entraîné des équipes. En entraînant des équipes, as-tu eu la responsabilité de les nourrir à tous les jours, ces enfants-là? Peux-tu résumer ta responsabilité? Ça ressemblait à quoi en deux phrases? En tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu voulais voir arriver? Oui. Il veut les voir progresser, se développer, progresser dans leurs habiletés. C'était son désir et c'était ce qu'il mettait en place pour y arriver. Et la parole de Dieu dit que ma responsabilité, c'est d'équiper les saints pour le service. C'est de vous aider à progresser, de vous équiper. Vous savez, la plainte que la plus grande majorité des pasteurs entendent quelquefois, lorsque des gens quittent l'Église, c'est « Ah, je ne suis pas nourri à cette Église-là ». Ce n'est pas le rôle du pasteur de nourrir les brebis. C'est ton rôle de te nourrir. Mon rôle, moi, est de t'entraîner et de t'équiper et de te permettre et de t'inspirer à dire « Il y a plus, je veux plus ». Ça, c'est mon rôle. Mais votre rôle, votre responsabilité, c'est de nourrir votre âme, tout comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, vous avez nourri votre corps. Vous êtes encore vivant aujourd'hui, à l'âge que vous avez. Ça veut dire que vous vous êtes nourri. Et votre âme a besoin de la même nourriture spirituelle. Votre foi a besoin d'être fortifiée. Donc, quelquefois, on doit se rappeler la leçon qu'on apprend des ventes de garage. On a besoin de faire de la place dans nos vies pour aller plus loin. Donc, c'était les quatre points qui sont vraiment importants que je voulais être certain que vous n'oubliez pas. Notre niveau d'espoir, c'est un indicateur. Ça nous permet d'évaluer, est-ce que je suis rempli d'espoir? Est-ce que ma foi fonctionne bien? On a vu qu'on doit combattre avec les promesses que Dieu accomplit dans nos vies. On vient de voir, et je vais juste être sûr de ne rien oublier. On doit combattre avec les promesses que Dieu réalise. On doit aussi valoriser la joie du Seigneur. On doit voir les situations comme Dieu les voit, comme je disais précédemment. Combattre avec les promesses que Dieu réalise. Et recevoir régulièrement une injection de foi. Lorsque j'ai l'impression que mon espoir diminue, j'ai besoin de dire, « Oh, as-tu nourri ta foi aujourd'hui? As-tu nourri Toto aujourd'hui? As-tu nourri ton âme aujourd'hui? As-tu entendu la voix de Dieu aujourd'hui? Es-tu allé écouter ce qu'il a à te dire aujourd'hui? Que ce soit à travers la parole écrite, le logos, ou à travers le réma, ton temps avec lui où Dieu peut t'inspirer. Très souvent, Dieu va utiliser le logos, la parole écrite, pour nous la révéler, pour nous parler en même temps, pour nous l'expliquer. Ça part de là. Lorsque je parle, je ne veux pas donner l'impression que je valorise plus la parole prononcée de Dieu que la parole écrite. La parole écrite a été premièrement prononcée. Ça a déjà été une parole que Dieu a prononcée. Elle a la même valeur. Et souvent, si on ne sait pas où commencer, on commence par la parole écrite et on croit que le Saint-Esprit est avec nous et il veut nous parler, nous inspirer et l'appliquer dans notre vie, dans notre situation. Alléluia! On se lève ensemble. On se lève ensemble. Et on va terminer simplement avec un mot de prière. Et je vous lance l'invitation, faites comme Néhémie a dit, invitez-vous les uns les autres, que la joie de l'Éternel soit votre force. Prions. Papa Dieu, je veux te dire merci. Merci Seigneur parce que tu désires que notre foi soit fortifiée. Seigneur Dieu, ce matin, viens par ton Saint-Esprit nous aider à voir là où on a encombré nos vies, qui fait que, Seigneur, c'est peut-être juste dehors sur le balcon alors que tu veux être en dedans de la maison. Saint-Esprit, viens nous donner maintenant le discernement, la sagesse, la clarté pour voir là où on a encombré nos vies inutilement de choses qui ne nous font pas avancer dans notre foi. Montre-nous, Seigneur, parce qu'on veut te faire plus de place. Seigneur, nous voulons que ta joie soit notre force, que ta joie parfaite, Jésus, soit en nous et que notre joie soit complète. Saint-Esprit, viens nous aider à travers tout ce qui a été dit, à travers ce que tu as parlé dans nos cœurs ce matin. Viens nous aider, Seigneur, à voir jour après jour, à penser complètement différemment pour être capable de penser un peu plus comme toi, pour être capable de voir un peu plus nos situations, nos vies, comme toi tu les vois. Et que ta joie devienne notre force. Seigneur, bénis ton peuple maintenant. Accompagne-nous, Seigneur Dieu, que nous puissions être équipés à travers ces vérités, marcher dans ces vérités, Seigneur, puis péter la victoire, Seigneur. Être victorieux comme David l'a fait. C'est au nom de l'Éternel que je m'avance. Bénis ton peuple, Papa, et je te prie dans le nom de Jésus. Amen.